Religion du monde. Geneviève Delru.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. On ouvre avec la publication ce dimanche d'un appel publié dans Le Parisien contre l'antisémitisme qui réunit plus de 300 signatures du monde politique, de la culture, de la société civile, parmi lesquelles celles de Nicolas Sarkozy et de Manuel Valls. C'est le double assassinat à un an d'intervalle, celui de Sarah Halimi en avril 2017 et celui de Mireille Knoll le 23 mars dernier qui est à l'origine de cet appel. Sarah Halimi, cette ancienne directrice d'école de 65 ans, juive pratiquante, avait été rouée de coups avant d'être défenestrée au cri d'Allah Akbar par son agresseur. Mireille Knoll, octogénaire, rescapée de la rafle du Veldiv, a elle été poignardée à son domicile parisien. Deux meurtres dont le caractère antisémite a été retenu par la justice après un long bras de fer judiciaire pour celui de Sarah Halimi. L'initiative de cet appel revient à plusieurs contributeurs d'un livre collectif qui sort actuellement en librairie et qui s'intitule « Le nouvel antisémitisme en France ». Un antisémitisme islamique pour les auteurs, parmi lesquels Boualem Sansal, Georges Bensoussan et Barbara Lefebvre, qui fait l'objet, selon eux, d'un véritable déni. On écoute Barbara Lefebvre. Cette enseignante avait lancé l'alerte en 2002 dans l'ouvrage collectif dirigé par Georges Bensoussan sur la montée de l'islamisme et de l'antisémitisme dans les quartiers dits sensibles dans le livre « Les territoires perdus de la République ».
Cela fait quand même plus d'une vingtaine d'années que cette question d'une nouvelle forme d'antisémitisme en Europe et en particulier en France s'exprime, ce que Pierre-André Taguieff a appelé la nouvelle judéophobie, qui s'exprime quasi exclusivement aujourd'hui par l'intermédiaire de personnes qui se réclament de l'islam et dans une des formes les plus radicales qui a conduit à l'assassinat d'une douzaine de juifs en France depuis 2003. Et l'assassinat de Sarah Halimi, qui est à l'origine de l'ouvrage, a été, on peut dire d'une certaine façon, l'acmé de ce déni d'antisémitisme et cette impossibilité à nommer une réalité qui aujourd'hui est assez grave en France.
Concernant donc Sarah Halimi, vous estimez qu'il y a eu un véritable silence, un véritable déni?
Oui, lorsque Sarah Halimi a été réveillée en pleine nuit à 4h du matin par un voisin déchaîné qui l'a battue à mort en invoquant des sourates du Coran, puis qui l'a défenestrée, nous avons été un certain nombre à nous émouvoir de façon assez vive de ce crime, et en particulier du fait qu'immédiatement la dimension antisémite était évacuée par la juge. Et surtout, nous étions en pleine campagne présidentielle et on sentait très bien chez tous les candidats une impossibilité de se saisir de cette affaire par peur justement que cela ne perturbe davantage une campagne électorale qui était déjà assez pathétique dans sa forme. Donc nous étions vraiment extrêmement choqués de ce silence et surtout de voir que, une fois la campagne terminée, ce silence ne se levait pas pour autant et que le déni continuait, notamment du côté de la justice. Et donc quand ce projet de livre a vu le jour, la juge n'avait pas encore décidé de placer la dimension antisémite dans l'enquête. Alors évidemment, nous en avons tenu compte ensuite dans les textes que nous avons écrits, mais pour nous, il s'agissait aussi de parler de ce silence judiciaire à l'époque.
L'assassinat de Mireille Knoll, donc 85 ans, poignardée à son domicile dans le 11e arrondissement, a cependant quand même soulevé une très large émotion.
Oui, je crois qu'en effet, il y avait une forme de réitération de l'horreur du crime. Et ça rappelait de façon tellement nette l'assassinat de Sarah Halimi que je pense qu'il y a eu une forme de culpabilité de la part des autorités politiques et aussi d'une partie des institutions juives qui n'ont pas été forcément très réactives au moment de l'assassinat de Sarah Halimi, toujours pour des raisons de politique politicienne en raison de la campagne électorale. Donc là, je pense qu'effectivement, l'assassinat de Mireille Knoll a permis aussi de libérer une parole qui avait été tue au moment de Sarah Halimi et qui avait nourri une certaine culpabilité chez beaucoup de gens, beaucoup de décideurs français.
Alors, vous êtes également donc à l'origine de cette grande tribune publiée dans Le Parisien ce dimanche. Qu'attendez-vous de cette tribune, dans laquelle d'ailleurs il n'y a pas de personnalité religieuse, hein, ce sont uniquement des personnalités de la société civile, du monde politique, culturel, etc. Qu'attendez-vous de cette tribune?
D'une certaine façon, de mettre les mots de façon, je dirais, unanime, hors des clivages politiciens et des envies d'être sur des photos médiatiques, mais enfin de mettre des mots. Alors, c'est pas quelque chose de nouveau pour moi, pour Georges Bensoussan, pour Pierre-André Taguieff et pour bien des signataires de cette tribune, parce que ça fait déjà plus de 20 ans qu'on en parle, mais il y a beaucoup de gens qui viennent maintenant signer ce manifeste et nous en sommes heureux, qui il y a encore quelques années avaient du mal à mettre des mots sur cet antisémitisme et à dire que l'islam, et en particulier que l'islam politique, était aujourd'hui le principal acteur de cette judéophobie criminelle qui fait de la France un cas unique au monde, c'est-à-dire le seul pays du monde aujourd'hui où on tue des juifs uniquement parce qu'ils sont juifs, si on excepte bien entendu Israël qui est en situation de guerre. Donc je crois que la situation française est suffisamment grave pour que aujourd'hui l'opinion publique soit informée et que enfin des mots soient clairement posés pour que des actions soient enfin décidées et pas seulement des plans de lutte contre le racisme et l'antisémitisme qui noient un peu tous les problèmes dans la lutte contre les discriminations. Or on sait très bien que c'est une guerre idéologique qui nous est menée aujourd'hui en France et que la judéophobie fait partie de cette guerre idéologique que l'islam politique mène aujourd'hui en Europe.
Direction à présent la Birmanie avec notre invité Frédéric de Baumy qui signe aux éditions de l'atelier Aung San Suu Kyi, l'armée et les Rohingyas. Spécialiste de cette minorité musulmane de l'état de l'Arakan qui vient de subir pour les Nations Unies un nettoyage ethnique de la part de l'armée birmane, Frédéric de Baumy analyse l'attitude ambiguë d'Aung San Suu Kyi, la chef du gouvernement, entre silence et discours de déni face aux violences qui ont précipité sur les routes en août dernier et depuis près de 700 000 Rohingyas vers le Bangladesh voisin où ils s'entassent depuis dans des camps de fortune. Le comportement dans cette crise humanitaire de la dame de Rangoon, prix Nobel de la paix, en contradiction avec son passé d'opposante au régime implacable des militaires, c'est ce qu'a voulu décrypter dans son livre Frédéric de Baumy.
Je pense que quand on se préoccupe de façon, ce qui est tout à fait légitime, de ce que subissent les Rohingyas, la première nécessité, la première exigence intellectuelle mais aussi morale, c'est de comprendre. Et je trouvais que le débat en fait n'était pas à la hauteur avec d'une part des critiques parfois mal renseignées de l'attitude d'Aung San Suu Kyi sur ce dossier et de l'autre, c'était sans doute plus rare mais ça existait aussi, des prises de position qui consistaient à dire que en fait, au vu de sa marge de manœuvre limitée, elle ne pouvait pas faire mieux et que il fallait en rester là. Donc des deux côtés, entre les propos peu renseignés qui étaient donc très très agressifs à son égard et puis les propos un peu rapides de ceux qui pensaient qu'il y avait rien à discuter, je pensais qu'il fallait quand même essayer de mettre un peu d'intelligence dans tout ça, faire droit à la complexité et à la nuance, dans le souci si on décrit mal une situation, on n'élaborera peut-être pas les bonnes solutions.
La crise des Rohingyas a fait connaître au monde cette minorité de Birmanie. C'est une crise qui, en fait, remonte à beaucoup plus longtemps. À lire votre livre, vous en faites l'historique, finalement, ça remonte à plusieurs décennies et à la... Alors, c'est pas la préoccupation, mais parfois l'obsession de l'armée birmane de l'unité du pays.
C'est une chose que j'ai voulu en fait mettre dans le livre, c'est donc resituer ce qui vient de se passer dans un contexte plus global. Et par exemple, peu de gens en fait qui aujourd'hui découvrent avec effroi ce qui arrive aux Rohingyas se rendent compte que l'armée birmane agit de manière extrêmement violente depuis longtemps vis-à-vis des minorités, mais aussi des Karen, des Kachin, des Shan, etc. Et pas seulement des Rohingyas. Alors c'est vrai que là on a affaire à quelque chose de particulièrement frappant, de particulièrement grave, mais les villages brûlés, les enlèvements de, par exemple, de jeunes filles qui vont être réduites à l'esclavage sexuel dans les casernes avant d'être abattues, le viol en groupe, les gens abattus sans sommation, etc. Ce sont des pratiques tout à fait courantes de l'armée birmane depuis des décennies.
Mais auprès de toutes les minorités?
De manière générale, il y a en fait, alors il faut expliquer qu'en Birmanie, il y a, pour simplifier, pour aller vite, mais c'est à peu près ça, deux tiers en fait de la population qui sont d'ethnie birmane ou Bamar, les Birmans, et puis un tiers de minorités. Et donc ça fait du monde. Et depuis des décennies, il y a une volonté de mise au pas par la majorité birmane, ou en tout cas ceux qui exercent le pouvoir, des minorités. Et donc ça passe par toutes les exactions possibles et imaginables. Donc l'histoire des Rohingyas s'inscrit dans ce cadre-là, avec le fait qu'il y a des choses qui leur sont spécifiques. Bon, déjà ils sont musulmans, c'est pas les seuls musulmans du pays, mais évidemment ça joue beaucoup dans ce qui se passe en ce moment. Et puis il y a des contentieux historiques particuliers. Les Rohingyas sont les seuls à être considérés comme n'étant pas des nationaux birmans. C'est la seule minorité qui subit ça actuellement. Les autres minorités musulmanes du pays, par exemple, les Kachins sont plutôt chrétiens. Les chrétiens sont mieux considérés en Birmanie que les musulmans. Cependant, c'est pas toujours facile. Il y a des endroits où, en fait, si vous voulez faire bâtir une église, avoir l'autorisation, ça va pas être facile. Par contre, dans le même temps, vous pouvez tout à fait voir l'édification d'une pagode, même en un territoire où il y a pas tant de bouddhistes.
Et les musulmans peuvent avoir leur mosquée, c'est où alors ils vivent complètement de façon totalement autarcique, j'allais dire.
Aujourd'hui, obtenir l'autorisation de faire bâtir une mosquée en Birmanie, je pense que ça n'est pas une chose absolument facile.
Alors pourquoi ce traitement plus sévère, enfin plus violent encore, à l'égard des Rohingyas ? Pourquoi ?
J'ai pas toutes les réponses, mais bon, alors il y a des aspects de contentieux historiques. Ceux qu'on appelle les Rohingyas et qui se désignent au moins dans une large mesure comme tels, sont pour beaucoup, pas entièrement, hein, pas 100%, mais pour beaucoup, des descendants de populations arrivées ou revenues dans la zone de l'Arakan en Birmanie pendant la colonisation britannique. Donc il y a ce contentieux-là, l'idée que ce sont des gens qui étaient un peu des supplétifs de la colonisation.
Des privilégiés.
Des privilégiés, ce qui n'était pas en fait toujours le cas. Le fait aussi qu'il y ait eu à cette époque des phénomènes de conversion, c'est-à-dire que quand un homme musulman arrivait à cette époque-là, en fait, épousait une femme bouddhiste, elle devenait musulmane. Et donc ça, c'est quelque chose qui, aujourd'hui encore, est une obsession des bouddhistes extrémistes. En fait, il y a cette espèce d'obsession actuelle et qui n'est pas qu'en Birmanie, hein, c'est un phénomène régional, l'idée que il y a une volonté de conquête musulmane de territoires historiquement bouddhistes.
Donc une sorte de peur du grand remplacement, en fait.
Oui, complètement, on est exactement là-dedans, c'est un fantasme omniprésent, et notamment en Birmanie. Il faut comprendre que pour la majorité birmane, donc d'ethnie birmane, il y a l'idée qu'être birman, c'est être bouddhiste, c'est être d'ethnie birmane, et c'est avoir la peau claire, quoi. Et donc ça, c'est très présent, c'est un état d'esprit qu'on retrouve à des endroits où on ne devrait pas les retrouver, c'est-à-dire même dans des organisations pro-démocratie, on retrouve à peu près partout, ou dans des médias qui ont lutté contre la dictature au nom de la démocratie, on retrouve à peu près partout cette mentalité. Alors pas chez tous les individus, mais dans toutes les organisations, ou à peu près, enfin c'est quelque chose qui est extrêmement prégnant, et il y a ce fantasme, donc qui n'est pas que en Birmanie, régional, d'une conquête musulmane. Il n'y a pas du tout le moindre indice, bien au contraire, c'est tout à fait fantasmatique, mais ça existe et c'est vraiment là et ça imprègne les esprits.
Alors comment se déroule la vie quotidienne, hein, dans l'état de l'Arakan, donc qui est à combien à peu près, la population musulmane de l'état de l'Arakan est estimée à combien environ?
Aujourd'hui, en fait, la quasi-totalité des Rohingyas, donc des musulmans de l'état d'Arakan, sont partis au Bangladesh. Ce qui fait que, là je risque d'être un peu imprécis, mais il doit rester un peu plus de 100 000 personnes aujourd'hui dans cette région, alors que c'était plutôt de l'ordre d'un million.
C'est ça, mais en pourcentage, les musulmans étaient...
Ils sont pas majoritaires, en fait. La population majoritaire dans l'état d'Arakan, c'est les Rakhine qui sont bouddhistes.
Et alors, comment se passait la vie quotidienne? Il y avait des rixes fréquentes? Comment? Parce que pour arriver à cette explosion, qu'est-ce qui s'est passé?
Pour arriver à cette explosion, donc déjà, en fait, les Rohingyas sont exclus de la citoyenneté. Ils sont apatrides dans leur propre pays depuis 1982. Et en fait, ils subissent une discrimination depuis très longtemps, à tous égards, par rapport à leur déplacement, par exemple, par rapport à bien des choses. Et il y a eu une aggravation en 2012. Donc les tensions étaient là depuis un moment. Et puis il y a eu une aggravation depuis 2012 avec un crime de droit commun. En fait, il y a une jeune femme bouddhiste qui a été assassinée dans l'état d'Arakan. On a parlé aussi d'un viol qui aurait précédé le meurtre, mais il est possible que ce viol soit une invention. En attendant, des gens ont été arrêtés, désignés coupables, et c'était donc des musulmans, où là aussi, en fait, il semble qu'ils n'étaient pas tous musulmans, mais en tout cas, ça a mis le feu aux poudres. Et puis, il y a ce mouvement de moines extrémistes qui, depuis 2012, en fait, est très présent, avec une figure dont on a parlé un petit peu partout dans le monde,
qui est Wiratu,
et qui a été l'objet d'un film de Barbet Schroeder.
Wiratu, c'est ça, hein?
Wiratu, oui. Mais qui n'est pas seul. Donc, il y a Wiratu, qui incarne un peu comme ça ce mouvement, mais en fait, qui n'est pas seul. Et donc, ces gens poussent très fort. Enfin, ils ont un discours islamophobe extrêmement agressif. Et puis, voilà, ils racontent que il y a un plan des musulmans, notamment des Rohingyas, mais en fait des musulmans en Birmanie, alliés aux musulmans du monde entier, et que ces gens-là, bah, qu'est-ce qu'ils veulent ? Ils veulent marier le plus de femmes bouddhistes possible pour les faire se convertir, et à la fin, faire en sorte qu'il y ait plus de musulmans que de bouddhistes en Birmanie. Alors évidemment, quand on répond à des gens comme ça, qu'il y a à peu près 4% de musulmans en Birmanie, et que le danger, à supposer que le fantasme soit réel, qu'il y ait cette volonté de conquête, on voit pas très bien comment ça peut se réaliser à court terme, ça les arrête pas du tout. En fait, le fantasme est tellement là, il y a des gens qui vont dire non, mais ils ont un plan à 25 ans, la chose est en marche, et on doit se défendre. Et on doit se défendre, ça autorise absolument tout.
Vous écoutez Religion du Monde. Notre invité est Frédéric Debomy pour son livre Aung San Suu Kyi, l'armée et les Rohingyas, publié aux éditions de l'Atelier. Comment vivent ou comment vivaient, puisqu'il n'en reste plus beaucoup, hein, à peine 100 000, disiez-vous il y a quelques instants, Frédéric Debomy, de quoi vivaient les Rohingyas dans l'état de l'Arakan?
Bah, ils pouvaient vivre du commerce, de diverses choses, mais en fait, il faut vraiment voir qu'ils étaient tout à fait l'objet de l'arbitraire constant des populations vivant autour d'eux.
De jalousie ou est-ce qu'ils tenaient le haut du pavé? Voilà,
c'est non, ils tenaient absolument pas le haut du pavé. Non, absolument pas du tout. Et récemment, en fait, Amnesty International a estimé qu'on pouvait parler en fait d'un système d'apartheid. C'est-à-dire que la définition de l'apartheid convenait parfaitement à la situation des Rohingyas de l'Arakan.
Frédéric Debomy, votre livre s'ouvre sur le rapport concernant la violation des droits de l'homme en août dernier dans l'état de l'Arakan. Et là, on se dit effectivement comment atteindre aujourd'hui encore, alors que l'opinion internationale quand même suit de près malgré tout l'armée birmane, comment peut-on arriver à un tel niveau de violence déjà? Et puis pourquoi Aung San Suu Kyi a-t-elle finalement si peu dit à l'époque, s'est-elle si peu prononcée contre cette violence?
Alors sur les violations des droits de l'homme commises par l'armée birmane cette fois-ci, mais aussi toutes les fois précédentes, en fait, il y a une culture de l'impunité. Jamais les militaires birmans n'ont eu à rendre compte des violations qu'ils commettaient depuis des décennies.
Oui, en fait, quand même, ils ont fait un peu attention parce qu'à un moment donné, il y a eu des sanctions internationales qui les bloquaient au niveau économique, quand même.
Ça les a pas du tout empêchés de commettre les pires exactions. Par exemple, à une époque, dans l'est de la Birmanie, la seule partie est, la situation était pire qu'au Darfour au même moment, par exemple. Donc Non, ça les a jamais intimidés. Sur le silence d'Aung San Suu Kyi, en fait, il y a ce qu'on espère, c'est que c'est tactique, ce qui n'empêche pas, en fait, de discuter la tactique ou du moins la stratégie. Mais il faut savoir d'abord qu'elle est certes à la tête du gouvernement birman, mais
elle est conseillère, c'est ça, hein?
Ouais, alors, elle est conseillère d'État, mais réellement, c'est la chef du gouvernement. Malgré les subtilités birmanes, c'est la chef réelle du gouvernement. Mais c'est un gouvernement qui, de par la Constitution, n'a aucune main sur l'action des militaires. Et en fait, il revient aux militaires, de par la Constitution, de régner sur toutes les questions de sécurité, de souveraineté nationale et tutti quanti. Donc, elle a pas la main. Maintenant, elle est passée d'un silence ou d'un quasi-silence qui posait des questions à une complicité de fait, puisque quand le nettoyage ethnique des Rohingyas s'est produit, son gouvernement a menti en disant que ce qui se passait ne se passait pas, a empêché les enquêteurs de venir voir sur place, qu'il s'agisse d'enquêteurs de l'ONU, de journalistes ou de membres d'ONG. Donc c'est une complicité de fait. Mais dans le même temps, on observe aussi que peu de temps après avoir pu constituer son gouvernement, Aung San Suu Kyi a suscité la mise en place d'une commission présidée par l'ancien secrétaire général des Nations Unies Kofi Annan, une commission sur la situation dans l'État d'Arakan. Et cette commission a rendu son rapport, des conclusions, et ces conclusions sont favorables au rétablissement des Rohingyas dans leurs droits. Et Aung San Suu Kyi s'est immédiatement engagé à mettre en application ces recommandations. Or, à ce moment-là, un groupe armé Rohingya aux motivations incertaines a attaqué des postes de police birmans, fournissant le prétexte d'une répression tous azimuts de l'armée birmane, qui s'en est pas seulement pris aux membres de ce groupe armé, mais en fait à la population civile dans son ensemble. Donc, quand on regarde un petit peu l'attitude d'Aung San Suu Kyi sur ce dossier, on se dit que avant les élections de 2015 que son parti a remporté, qui lui a permis d'être à la tête de l'État avec toutes les limites que je mentionnais, avant elle n'a pas voulu aller sur un terrain très impopulaire qui est le terrain de la défense des musulmans, en espérant qu'une fois qu'elle serait au pouvoir, elle pourrait faire des choses. La mise en place de la commission Annan peut laisser penser que c'est ce qui se passait. Maintenant, on peut quand même interroger beaucoup de choses, y compris peut-on effectivement se rendre objectivement complice d'une armée par souci peut-être d'éviter la confrontation avec cette armée, mais en disant que voilà, les exactions qui ont bien lieu n'ont pas lieu. Il y a quand même beaucoup de choses à interroger.
Et en même temps, on peut se dire aussi que la politique des petits pas peut apporter quelque chose.
C'est toute la question, en fait. On peut craindre que le pragmatisme d'Aung San Suu Kyi soit extrême. En même temps, on peut pas ignorer non plus que sa marge de manœuvre est effectivement limitée. Mais par exemple, au-delà des seuls Rohingyas et s'agissant des musulmans de Birmanie dans leur ensemble, son parti, la Ligue Nationale pour la Démocratie, a choisi en 2015, pour les élections de 2015, de ne pas présenter de candidat musulman pour éviter les critiques auxquels ils ont eu droit de toute façon, des mouvements extrémistes bouddhistes. Ça fait quand même un précédent. Ça veut dire qu'on peut exclure les musulmans de la vie politique du pays, quasiment, dans une circonstance particulière. Ça peut se discuter, ça, par exemple. Est-ce qu'il n'aurait pas été quand même meilleur de gagner ces élections avec peut-être un peu moins de sièges, un peu moins de voix, mais de façon plus honorable? Donc, on peut pas non plus oublier que dans le parti d'Aung San Suu Kyi, il y a des gens qui sont islamophobes. Il y a des gens qui pensent qu'effectivement, être birman, c'est d'ethnie birmane et être bouddhiste. Et puis on peut pas oublier de façon plus générale en fait que l'autoritarisme d'Aung San Suu Kyi au sein de son propre parti, la directive qu'elle a donnée aux gens de son parti de ne pas communiquer avec les organisations de la société civile, l'incompétence de ce gouvernement aujourd'hui avérée, un certain nombre de problèmes. Mais sur la question des Rohingyas, elle reste un peu la seule carte à jouer dans le paysage actuel. Donc il faut en fait appuyer sa volonté de mettre en place les recommandations de la commission Annan, et en même temps s'assurer qu'elle fasse bien ce qu'il faut pour qu'il soit mis en place.
Frédéric de Bomy, vous l'avez rencontrée, vous, Aung San Suu Kyi, lorsqu'elle était en résidence surveillée. Alors, c'était une prisonnière VIP, certains ont pu dire d'ailleurs à l'époque.
Oui. Alors, elle n'était plus en résidence surveillée, mais depuis peu de temps. C'était après sa dernière libération, et j'avais pu discuter avec elle de cette question des Rohingyas. J'avais tenu à mettre ça sur la table. C'était un petit peu avant ce meurtre de 2012 qui a remis le feu aux poudres, en fait.
Et on vous avait dit, ne prononce pas ce mot devant elle, ça va la contrarier.
On m'avait prévenu du fait que c'était une discussion qui, elle risquait de se braquer. En fait, c'était pas du tout le cas, et j'ai pas senti de sa part d'hostilité ni vis-à-vis des Rohingyas en particulier, ni vis-à-vis des musulmans en général. Par contre, restait une ambiguïté sur le fait qu'elle considère ou non les Rohingyas comme des nationaux birmans. Pour moi, il n'y a pas de La question est vite tranchée, en fait. À partir du moment où les gens sont nés dans un pays, ce sont des nationaux. En plus, on sait que dans la plupart des cas, les Rohingyas ont des descendants qui remontent au moins à 2 générations sur le territoire birman. Donc, est-ce que cette notion, est-ce que ce droit du sol est tout à fait est aussi une évidence pour Aung San Suu Kyi? Là, il reste une part de questions, et c'est une question évidemment très importante.
Aung San Suu Kyi est la fille de Aung San, qui a été assassinée en 1947. Elle est née en 45, donc elle n'a connu que 2 ans. Mais manifestement, il y a une sorte de généalogie qui la porte. Et son père, lui, était tout à fait favorable pour que la Birmanie soit une sorte d'assemblage, de une fédération qui puisse fédérer toutes ses ethnies. Donc elle porte ça en elle quand même.
Alors, Malgré les inquiétudes qu'on peut avoir actuellement, jusqu'à preuve du contraire, le nationalisme d'Aung San Suu Kyi est un nationalisme inclusif. Il y a l'idée que toutes les populations de Birmanie doivent s'entendre et élaborer un projet commun. Quant à sa filiation avec son père, il est évident que le fait d'être la fille d'Aung San joue beaucoup en fait dans son engagement politique en fait. Mais je pense aussi qu'il faut pas trop en faire avec ça. C'est-à-dire que c'est quand même un individu autonome. Et si tout ça joue un rôle, elle n'est pas. Je pense par exemple à un livre très récent d'un journaliste du Monde, Bruno Philippe, qui lui explique quasiment toute la carrière d'Aung San Suu Kyi par un biais oedipien. Ça me semble pas très sérieux.
Elle prononce quand même ce grand discours hein, le 26 août 1988. 88 qui est une année terrible en Birmanie. Il y a énormément de manifestations et de répression. Elle prononce ce grand discours. Et dans ce grand discours, les minorités sont bien présentes. Hein.
Oui. Ça, c'est vraiment le discours qui marque son entrée en politique. Et la question des minorités est donc immédiatement présente.
Donc on peut supposer à ce moment-là qu'elle est sincère et qu'elle va continuer dans ce sens-là. Donc si elle est bloquée, c'est qu'il y a quelque chose, c'est qu'elle sent qu'elle ne peut pas aller plus loin.
Dans un aspect d'un discours récent qui a été critiqué à raison parce qu'il contenait une grande part de mensonges sur ce qui se passait dans la Rakhine.
Oui, elle disait quoi ? Elle disait qu'il se passait...
Elle disait par exemple que les offensives avaient cessé à telle date et c'était pas vrai. Elle disait que chacun dans l'état d'Arakan bénéficiait des mêmes possibilités et services, ce qui n'était pas vrai. Enfin, en résumé. Donc ça, on peut toujours penser que c'est pour ne pas confronter l'armée, mais tout de même. Mais il y avait aussi un autre aspect du discours qui a été moins commenté et dans lequel elle semblait affirmer sa volonté de travailler au dépassement des clivages ethniques, religieux en Birmanie. Donc d'aller vers une conception un peu différente de ce qui doit lier toutes les populations de Birmanie.
Alors il y a un passage tout à fait intéressant dans votre livre, hein, Frédéric de Bomis, sur le bouddhisme d'Aung San Suu Kyi. Elle est profondément bouddhiste. Elle considère que le bouddhisme, c'est aussi la démocratie.
Oui, elle établit des liens, par exemple, entre les concepts bouddhistes et la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui est l'une de ses références récurrentes. J'ai écrit ce passage parce que il y a eu beaucoup de raccourcis. Encore une fois, je dis pas la vérité d'Aung San Suu Kyi dans ce livre et de son attitude vis-à-vis des Rohingyas, mais en tout cas, on peut relever qu'un certain nombre de commentaires ont été faits de manière hâtive, et notamment, il y avait l'idée que puisqu'elle était bouddhiste, cela expliquait son rejet des Rohingyas qui sont musulmans. C'est un peu rapide. Et donc, j'ai été voir précisément ce qu'elle dit quand elle parle du bouddhisme, et on n'y voit aucune trace d'intolérance et on ne voit aucune expression d'un sentiment de supériorité, quoi, un sentiment que sa foi serait supérieure aux autres, pas du tout. Donc,
mais,
non,
oui.
Son attachement au bouddhisme et son attachement aux valeurs de la Déclaration universelle des droits de l'homme semblent marcher main dans la main.
Et elle dit pour elle que le spirituel, c'est ce qui compte le plus.
Oui, alors elle a dit ça il y a un certain temps, ceci dit, mais effectivement, c'est ce qu'elle affirme, que parvenir à un certain niveau d'élévation est son but ultime.
Alors, comment expliquez-vous que la crise des Rohingyas ait été finalement tant portée dans les médias, dans le monde entier, alors que manifestement, c'est quand même une question finalement ancienne? Comment expliquez-vous cela, cette mobilisation, j'allais dire, des médias qui ont porté cette crise? Est-ce que c'est par sa violence? Est-ce que c'est parce qu'effectivement il y a Aung San Suu Kyi qui est le prix Nobel et qui ne réagit pas? Comment expliquez-vous cela?
Il y a la gravité incontestable de la situation d'une part. Il y a sûrement aussi effectivement parce que beaucoup d'articles consacrés à cette crise sont consacrés à expliquer ou disons à mentionner le fait qu'Aung San Suu Kyi n'a pas l'attitude attendue en fait. Et d'ailleurs, est-ce qu'on joue pas le jeu du régime militaire en faisant ça? Parce qu'en gros, quelle est la situation? Les militaires commettent les pires exactions et tout le monde se concentre sur la faute morale d'Aung San Suu Kyi. Et si on peut interroger son attitude et la dimension de complicité objective du gouvernement civil, la faute de ce qui arrive incombe aux militaires. Ce sont les militaires qui commettent les exactions. Et qui parle de Min Aung Hlaing, le chef de l'armée, par rapport aux violences qui ont été commises? Non, tout le monde parle d'Aung San Suu Kyi. Donc il y a énormément de bruit, des gens disent il faut lui retirer le prix Nobel de la paix, il y a énormément de choses là-dessus, mais finalement le chef de l'armée doit ricaner, parce que Aung San Suu Kyi lui sert de bouclier. Et toute la question est de savoir si elle peut être plus qu'un bouclier dans ce dossier de l'Arakan et des Rohingyas, et même de façon générale pour la démocratisation de la Birmanie. Aujourd'hui, les militaires ont voulu une ouverture politique limitée et contrôlée. Ils ont donné un pouvoir limité à la dissidente de toujours, Aung San Suu Kyi. Et finalement, il serait peut-être l'objet de plus de critiques, de plus de pressions, s'il n'y avait pas une partie de la communauté internationale qui craignait, en les attaquant, en les critiquant fort, que cela se retourne contre la chef du gouvernement civil, dont on espère encore qu'elle pourra faire des choses et pour les Rohingyas et pour la démocratisation du pays. Toute la question est de savoir si effectivement elle va pouvoir faire des choses au vu de sa marge de manœuvre limitée, de ce contexte piégé, et puis aussi on peut interroger ce qu'elle fait effectivement. Quelle est sa stratégie, quel est le fond de sa pensée? Il y a évidemment énormément de questions.
Et puis ce que vous soulignez également, Frédéric de Bomy, c'est qu'il y a d'autres paramètres. Il y a le paramètre notamment de la Chine.
La Chine est le premier investisseur en Birmanie, c'est le grand voisin qui bénéficie d'un siège permanent au Conseil de sécurité de l'ONU, c'est-à-dire d'un droit de veto et qui peut, à ce titre, bloquer les initiatives d'autres parties du monde contre les militaires birmans. Donc la Chine est d'un poids évident en Birmanie, et en fait la Chine a des intérêts économiques dans la région de l'Arakan, notamment. Et puis aujourd'hui ne favorise pas le règlement de la situation des Rohingyas, c'est-à-dire aujourd'hui il y a tous ces gens qui sont partis par centaines de milliers au Bangladesh, et la Chine a exercé son influence pour que les questions autour du rapatriement se débattent seulement entre la Birmanie et le Bangladesh, et que l'ONU par exemple ne soit pas impliquée. Alors c'est des choses qui évoluent ces temps-ci, me semble-t-il, mais il y a quand même cette volonté de la Chine de profiter de la crise pour exercer toujours plus son emprise. Et en fait la Chine se pose comme la Chine peut protéger les militaires, et donc ce serait très long à raconter ici, mais en gros...
On peut résumer.
Oui, mais la Chine ne souhaite pas un retour à la pleine dictature d'hier, qui n'était pas propice aux affaires, une dictature instable. Et donc, Aung San Suu Kyi et son gouvernement civil, comme les militaires, ont besoin d'avoir de bonnes relations avec la Chine. C'est très confortable pour la Chine, qui peut jouer de toutes les parties pour garder une certaine emprise sur le pays.
Alors, la conclusion, Frédéric de Bomy, quelle attitude avoir vis-à-vis d'Aung San Suu Kyi? Est-ce qu'il faut lui laisser sa chance encore? Est-ce qu'au contraire, il faut avoir cette exigence morale et la mettre face à cette exigence? Quelle attitude avoir?
Je pense qu'il faut considérer que si elle n'est plus dans le paysage politique birman demain, en fait, on n'y gagnera rien. Les Rohingyas n'y gagneront rien. Et donc, il faut toujours compter sur elle, mais on peut pas non plus être dans une situation de confiance inconditionnelle. Il faut exiger d'elle et l'accompagner tant qu'elle manifeste une volonté apparente d'obtenir le rétablissement des Rohingyas dans leurs droits.
Je vous remercie, Frédéric de Bomy. Je rappelle donc le titre de votre livre, Aung San Suu Kyi, l'armée et les Rohingyas. Et c'est publié aux éditions de l'Atelier. Merci. Progrès dans toutes ses composantes scientifiques, techniques, technologiques, philosophiques, sociétales, économiques a été interrogé et passé au crible de la 3e édition des Voix d'Orléans, qui a réuni une quarantaine d'intervenants de 16 pays de la francophonie pour ce débat d'idées sur les finalités du progrès. Une table ronde sur les religions et les spiritualités face au progrès était au programme. Mais avant, sur le sens et l'objectif de cette 3e édition des Voix d'Orléans, rencontre de la francophonie, on écoute le maire d'Orléans, Olivier Carré.
C'est d'abord un geste politique. C'est un geste politique en ce sens qu'aujourd'hui, dans le monde, dans la bataille des idées qui taraudent l'ensemble des opinions publiques, l'universalisme, beaucoup de pensées européennes et notamment françaises, ensuite défendues par la langue française, sont aujourd'hui mises à mal par d'autres courants, par le mercantilisme, par l'islamisation et par la radicalisation, par une forme d'obscurantisme qui revient au moment où on n'a jamais autant progressé et aussi vite sur les sciences. Donc bref, on voit bien que tous ces éléments un peu chaotiques font que, à un moment donné, il faut rappeler qu'est-ce qui a fait que le progrès social a pu se diffuser, que malgré l'histoire parfois compliquée du 19e siècle et d'un certain impérialisme, il y a eu aussi la diffusion d'idées saines qui ont promu l'émancipation des peuples. Et que le progrès, puisque c'est le thème de cette année scientifique, a souvent accompagné ces démarches par une amélioration de la condition individuelle des peuples. Donc tous ces éléments-là, tous ces combats-là, ils sont aujourd'hui remarquablement tenus par ceux qui sont au front de ces idées, et notamment dans la francophonie. J'avais été frappé au moment du drame du Bataclan, que finalement, dans cette espèce de stupeur, dans cet effroi, nos philosophes, nos écrivains avaient finalement une position qui n'était pas une position si combative que cela, ceux de la métropole. Et j'avais été au contraire saisi par la vigueur, par l'acuité, par la pertinence de propos qui étaient tenus. Je me souviens d'un texte d'un professeur au Caire, je me souviens d'une écrivain tunisienne, je me souviens d'une chercheuse au Liban, et tout cela avait pris leur plume pour expliquer comment est-ce que eux subissaient cela au sein de leurs universités, au sein de leurs lieux, et qu'ils combattaient cela, et notamment que quelque part, et ça ils ne le disaient pas, mais c'était sous-jacent, par l'utilisation de la langue française, par l'aspiration qu'ils avaient à s'exprimer dans cette langue, eh bien, ils rejoignaient les préceptes de Victor Hugo, qui avait fait de la langue française le grand vecteur de l'émancipation des peuples dans son universalité, en tout cas telle qu'elle était portée par ce qu'ils pensaient être le meilleur de la République. Et donc, le fait de se dire qu'il faut mettre un petit grain de sable dans des fois des mécaniques infernales qui ont toujours taraudé les opinions publiques depuis toujours. Tous les totalitarismes sont nés au sein des peuples, conduits par quelques-uns, mais menés au sein des peuples. Eh bien, il fallait répliquer. Et ce petit grain de sable, c'est les voix d'Orléans.
Comme je le disais, une table ronde consacrée aux religions, croyances et spiritualités a débattu de la question du progrès avec une question de fond. D'un côté, un progrès technologique au service de la diffusion du savoir. De l'autre, la montée d'un obscurantisme qui rejette le progrès tout en d'ailleurs s'en servant. Et là, bien sûr, on pense à Internet. Pour exemple, en monde musulman, au sein de groupes intégristes, le créationnisme qui rejette la théorie de l'évolution. C'est l'intellectuelle tunisienne Fawzia Charfi, physicienne, universitaire et femme politique, aujourd'hui engagée dans l'étude des relations entre science et religion, qui est intervenue notamment sur cette question du danger de la régression de la pensée.
Cette menace, en fait, de l'obscurantisme, elle est réelle. Elle est réelle, mais elle n'est pas nécessairement visible. Et ça, je pense que c'est important, parce que les partis islamistes ont souvent un double discours, donc ils se disent modernes, etc. Ils utilisent les technologies modernes, ça, c'est un fait. Mais leur manière de constituer un obstacle à la modernité n'est pas tout à fait visible. Ils travaillent au niveau de l'éducation, au niveau des jardins d'enfants privés qui sont financés par des associations, etc. Donc je ne vais pas m'étendre sur cette question-là, mais ce recul, je dirais, que les islamistes veulent imposer n'est pas spécifique à la Tunisie. Il s'inscrit aujourd'hui dans un mouvement, on va dire, à l'échelle planétaire, obscurantiste, et il y a une sorte de mondialisation, entre guillemets, de ces mouvements obscurantistes à travers le créationnisme qui, parti des États-Unis, des anglo-saxons et évangélistes, a atteint aussi le monde musulman. Il a atteint aussi l'Inde. Ce qui est important aujourd'hui à relever, c'est que finalement, ces nouvelles technologies de l'information ont permis, malheureusement, cette propagation de cette conception des évangélistes américains qui a été adoptée par, en premier par des sites turcs, le fameux site Harun Yahya, qui avait envoyé massivement en Europe son fameux atlas de la création. Donc là, il y a vraiment une sorte d'alliance, en fait, assez paradoxale entre certains mouvements venus d'Occident, créationnistes, et des mouvements rétrogrades, on va dire, passéistes, dans le monde musulman, qui se sont accaparés de la manière de présenter ce créationnisme. Il me semble qu'Internet a favorisé, en fait, cette régression, en quelque sorte, intellectuelle. sur cette question scientifique, alors que la théorie de l'évolution biologique est une théorie aujourd'hui bien établie, etc. Alors, bien sûr, juste un mot, il y a eu bien sûr des réactions, par exemple en Europe, c'est très intéressant de voir en 2007 la réaction du Conseil de l'Europe qui a établi un rapport contre ces tentatives créationnistes en Europe. Donc, c'est pas un mouvement qui se répand sans qu'il y ait de réaction. Mais pour revenir à la Tunisie, bon, nous enseignons nos programmes officiels dans le secondaire, c'est que nous enseignons la théorie de l'évolution, mais il y a des tentatives de la part de certains de faire en sorte que ça ne soit plus le cas.
Le progrès, donc le thème de ces journées Les Voix d'Orléans, le progrès dans la partie qui nous a intéressés, hein, cette table ronde, cet échange sur religion, spiritualité et progrès, là on peut le voir dans des cas concrets, sur la liberté, j'allais dire, religieuse, voire de conscience. En Tunisie, maintenant, on pourra, il y a une loi, une musulmane pourra épouser un non-musulman. C'est très important, c'est comme une révolution, non ?
Oui, c'est important, parce que c'était difficile, effectivement, pour une Tunisienne de valider le mariage qu'elle pouvait faire, souvent à l'étranger. En Tunisie, ça n'était pas le cas. Alors que, donc, il y avait cette interdiction de la femme tunisienne musulmane d'épouser un non-musulman sur la base d'une circulaire. Vous voyez, donc, parce que, en principe, dans le code du statut personnel, donc qui a été promulgué quelques mois après l'indépendance, en 1956, le 13 août 56, c'est un code extrêmement avancé, en fait, révolutionnaire à l'époque. Bon, mais je vais dire qu'il y a quand même des questions qui posent problème dans ce code du statut personnel. L'égalité n'est pas parfaite dans ce code donc de la famille de Bourguiba. Et petit à petit, il y a eu parfois des reculs par rapport à finalement à cette avancée considérable qui se passe dans un pays de culture musulmane, un pays à majorité musulman. Et en août 2017, donc, le chef de l'État tunisien a demandé à ce que cette circulaire, donc, qui interdisait à la femme musulmane d'épouser un homme musulman, soit abrogée, ce qui a été fait extrêmement rapidement. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas eu de réaction très négative à l'abrogation de cette circulaire. Ça aussi, c'est intéressant de voir, en fait, que la société tunisienne, quasiment dans son ensemble, même avec la complexité qu'il y a aujourd'hui, bon, il y a des mouvements plutôt conservateurs, puis voilà, ce que j'appelle les islamistes, c'est-à-dire les promoteurs de l'islam politique qui auraient pu manifester leur désaccord, mais comme ils partagent le pouvoir, donc là, ils ne l'ont pas fait. Et c'est une victoire, bon, qui s'ajoute à cette situation, en fait, en Tunisie, où la femme a une place vraiment importante, qu'elle a, il y a 62% de femmes diplômées, mais enfin, tout n'est pas rose parce que, on est dans un principe d'égalité, puisque la constitution tunisienne, donc, de 2014, a consacré l'égalité entre les hommes et les femmes, mais, lorsqu'on voit la réussite des femmes et lorsqu'on voit leur difficulté à trouver un emploi, là, la proportion s'inverse. Parmi les femmes diplômées, il y a 2/3 de femmes chômeurs. Donc, vous voyez que là, là, ça veut dire que aussi, peut-être que la société n'est pas encore complètement prête à accepter l'égalité entre les hommes et les femmes.
Alors, du côté, là on poursuit dans les progrès Fawzia Sharfi, du côté de l'héritage, est en cours actuellement le travail d'une commission sur l'héritage, à savoir que la femme héritera à la même hauteur que les hommes. Ça, est-ce que ça pourra passer dans la société ? Là aussi, c'est un saut énorme.
Alors là, c'est plus difficile parce que, pour rappeler juste la question de manière historique, quoi, la question de l'égalité entre les filles et les garçons, la fille hérite la moitié de la part du garçon. Bourguiba, en 1974, considérait que son œuvre n'était pas finie et qu'il fallait effectivement proposer, une nouvelle loi concernant la succession et voilà, parfaire la question de l'égalité. Mais il n'est pas arrivé pour deux raisons. D'abord, la société tunisienne n'était pas d'accord, donc comme je disais tout à l'heure, plutôt conservatrice. Et puis il y a eu l'inquiétude par rapport à l'Arabie Saoudite qui menaçait donc de geler les relations diplomatiques entre les deux pays. Parce que sur la question de l'héritage, donc certains rigoristes considèrent que le verset du Coran est clair, donc la fille a la moitié de la part du garçon, et que, en deux mots, le verset, il y a un autre verset qui permet à toute personne ayant un certain âge, etc., de céder une partie de leur bien par voie testamentaire. Donc la charia, donc la loi islamique, a institué l'abrogation de ce deuxième verset, c'est-à-dire que celui qui est héritier a sa part fixe et par voie testamentaire il ne peut pas avoir plus. Donc on est vraiment dans l'inégalité de succession entre la fille et le garçon. Et là, le chef de l'État, en août dernier, donc, a constitué une commission de travail sur la question de l'égalité entre les hommes et les femmes en Tunisie, et qui va toucher donc cette question successorale qui est très sensible. Alors, il y a des autorités religieuses dans d'autres pays arabes qui ont réagi en considérant que la Tunisie s'éloignait de l'islam, la Tunisie en tant que pays. Alors, ça n'est pas au niveau politique, mais là, c'est au niveau religieux. Il y a eu aussi en Tunisie, bon, effectivement, un certain nombre de personnes se réclamant donc d'un islam plutôt traditionnel. C'est même l'islam traditionnel est mis en cause dans cette question-là. Donc, il y a des résistances réelles au fait qu'on pourrait proposer une loi établissant l'égalité successorale entre filles et garçons. Alors, on le saura fin juin ou au cours de l'été prochain, mais c'est un enjeu considérable pour les autres pays arabes. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir que le Maroc, aujourd'hui, discute aussi, pas au niveau politique, mais au niveau de la société marocaine, des intellectuels marocains, la question de l'égalité successorale, qui n'est pas uniquement lié à la succession, mais c'est une question de principe, c'est-à-dire comment peut-on imaginer aujourd'hui qu'une femme active, etc., qu'une femme tout court, voilà, une paysanne aussi, parce que la question de la propriété des terres est extrêmement, elle est cruciale, c'est aussi une des raisons pour lesquelles certains ne veulent absolument pas cette égalité entre filles et garçons. Donc comment cette question-là peut encore être posée aujourd'hui en 2018? Alors voilà, et en fait il y a deux manières. Il y a une manière très claire de voir les choses, c'est de dire il y a un principe d'égalité, eh bien il faut être conforme à ce principe d'égalité homme-femme qui est clair dans la Constitution, et donc il faut l'appliquer, et il doit y avoir une cohérence du droit entre ce que dit la Constitution et ce que va dire après la loi aussi sur cette question-là.
Ouais. Donc c'est la supériorité de la loi civile à la loi coranique.
Oui, mais ça avait déjà commencé avec le code du statut personnel. Et là, ce qui est intéressant, mais je pense que on est en 2018, donc on doit accepter, voilà, que l'on poursuive le travail de la modernité, c'est-à-dire de la séparation du droit et de la religion, comme la séparation de l'État et de la religion, la séparation de la science et de la religion, c'est ça la modernité.
Fawzia Charfi, une des intervenantes des Voix d'Orléans, rencontre de la francophonie. Fawzia Charfi qui a signé 12 ouvrages chez Odile Jacob, La science voilée et sacrée question pour un islam d'aujourd'hui. C'est la fin de Religion du Monde, présentée par Geneviève Delru, réalisation signée Laurie Plisson. Et vous pouvez réécouter cette émission en podcast sur notre application Pure Radio et sur notre site internet RFI.fr dans la rubrique émission. On se retrouve dimanche prochain. Bonne semaine à tous.